Marie-Pierre Rey, nous nous retrouvons ce soir donc invités par la librairie Mola pour le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême. Ce livre vous écarte un petit peu de ce que vous faites d'habitude. Vous êtes connue comme une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'Empire avec beaucoup de livres publiés chez le même éditeur, chez Flammarion. Là, on vous retrouve dans de l'histoire de l'alimentation. Le premier des chefs, c'est effectivement Antonin Carême, est l'un des chefs les plus célèbres de la première moitié du 19e siècle. Donc comment s'est effectué le passage et pourquoi cet intérêt pour l'histoire de l'alimentation ?
Alors, c'est une histoire de l'alimentation, mais comme vous venez de le mentionner, incarnée par un individu, un destin, qui est celui d'Antonin Carême. Alors, j'ai croisé, si je puis dire, la route d'Antonin Carême dans mon travail sur Alexandre Ier, et en particulier sur mon ouvrage qui traitait de l'occupation russe à Paris en 1814. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, donc quand les Russes, Alexandre Ier, entre en vainqueur à Paris fin mars 1814, à la tête des troupes coalisées, on est dans un entre-deux politique, puisque Napoléon est vaincu, il est en train d'abdiquer, mais les Bourbons ne sont pas encore revenus au pouvoir, et c'est Talleyrand qui va finalement orchestrer la destinée de la France. Et il invite, pourrait-on dire, le tsar à séjourner chez lui, rue Saint-Florentin, parce qu'il a très bien compris que ce souverain francophile et francophone a entre ses mains, pourrait-on dire, le destin de la France et surtout le destin des frontières, puisqu'il s'agit du premier traité de Paris qui va être bientôt signé. Et pour séduire, en fait, Alexandre Ier, pour le mettre dans de bonnes dispositions à l'égard de la France, eh bien, Talleyrand, qui est très habile, va faire feu de tout bois. Et en particulier, il va utiliser cette nouvelle arme culinaire pour séduire. Il en fait donc de cette arme culinaire un outil diplomatique. Et qui pouvait mieux que Carême incarner précisément cette grande gastronomie, cet art culinaire porté à son paroxysme. Donc voilà pourquoi Antonin Carême va jouer un rôle important en 1814.
D'accord. Et alors, qui est Antonin Carême? Quelles sont ses origines? Quelle a été sa formation?
Alors, Antonin Carême, et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans son parcours, au départ, c'est un enfant. Alors, lui, c'est dit enfant abandonné, hein, puisqu'on sait qu'il a écrit un petit texte de souvenirs très bref où il se dit enfant abandonné. En fait, il a probablement été placé par son père chez un aubergiste, alors que Antonin, en fait, son vrai nom, Marie-Antoine, n'a qu'une dizaine d'années. Et là, on est en 1794. Et c'est parce qu'il s'agit de vivre, de survivre, et que son père donc est trop pauvre pour continuer à s'occuper de lui. Donc il débute, pourrait-on dire, sa vie professionnelle comme petit homme marmiton qui travaille dans cette auberge aux portes de Paris. Et c'est ainsi donc qu'il découvre ce qu'est la cuisine, mais il va avoir par la suite l'opportunité, la chance d'entrer chez un pâtissier qui était le meilleur pâtissier de la France de l'époque, chez lequel il va véritablement démarrer et être repéré. Car très tôt, finalement, cet adolescent qui sait à peine lire et écrire, hein, il va apprendre un peu de façon approximative, apprendre à lire et à écrire quand il a 15-16 ans, eh bien, va s'avérer un génie de la cuisine, à la fois par sa dextérité, sa technicité, qui sont le fruit de beaucoup d'observations. Hein. Carême, c'est un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui, en même temps, va beaucoup réfléchir, beaucoup observer et réfléchir à ce qu'est la cuisine et surtout au départ la pâtisserie, puisqu'il débute véritablement sa carrière par la pâtisserie. Et ce qui est intéressant à mentionner, c'est le lien avec 1814, c'est qu'il va commencer, il va rencontrer Talleyrand en 1803-1804, alors qu'il est employé chez Avis, qui est donc ce grand pâtissier, chez qui il va se faire très vite remarquer, à la fois par sa technique du feuilletage et sa manière d'alléger finalement des pâtisseries trop lourdes de l'époque, et puis l'attention, et je pense qu'on y revient reviendra, l'attention presque obsessionnelle qu'il apporte au beau dans la pâtisserie. Et c'est un esthète de la pâtisserie qui va séduire à la fois Avis, son patron, mais également Talleyrand, qui voit très vite l'opportunité de tirer parti de ce goût du beau en pâtisserie.
Alors vous insistez sur le lien qui existe avec Talleyrand. Comment se sont-ils rencontrés? Quel est leur rapport avec Talleyrand? Combien de temps est-il resté à son service? Et est-ce Carême, justement, au travers de ses compositions, qui met en évidence le rôle que la gastronomie française peut avoir dans la diplomatie? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va jouer énormément au 19e siècle. On a conservé nombre de menus au ministère des Affaires étrangères. Donc, est-ce que Carême est à l'origine de cela?
Ah oui, absolument. En fait, alors, dès 1803-1804, Carême, donc, qui a été repéré par l'intendant de Talleyrand, ce n'est pas Talleyrand qui directement est allé à la boutique, mais c'est son intendant qui a commencé à voir les belles œuvres, les fameuses pièces montées qui vont faire la notoriété de Carême, qui étaient exposées en vitrine et dont l'intendant de Talleyrand va aussi se dire qu'elles sont intéressantes. Et il va donc être recruté par Talleyrand pour exécuter ce qu'on appelle les grands extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que ces grands extraordinaires? Ce sont des commandes de belles pâtisseries, de pièces montées qui pouvaient faire 1,30 m. Hein, c'est énorme. Il faut se rendre compte de ce que c'est en proportion, en volume, pour justement agrémenter les tables d'apparat du ministère des Relations extérieures. Et donc, c'est Talleyrand qui sera le premier des grands employeurs, pourrait-on dire, de Carême, et qui va l'associer très tôt à ce que Talleyrand a très vite senti, ce dont il a eu l'intuition. Alors, il n'est pas le premier à y avoir pensé, mais quand même, c'est lui qui va développer cet art, qui est qu'effectivement, la gastronomie peut être un outil diplomatique. Et Carême, eh bien, va travailler pour Talleyrand. De 1803 à 1815 ensuite, mais dans un autre contexte. Mais ce qu'il faut rappeler, et c'est très important, c'est que Carême restera un homme libre. C'est-à-dire qu'il va servir pas mal de grands employeurs, mais rarement de façon exclusive. Il sert Talleyrand, mais il répond en fait à des commandes et il restera toujours son propre maître. C'est quelque chose auquel il tenait beaucoup parce que il voulait, il le dit dans ses souvenirs, il voulait toujours pouvoir apprendre, pouvoir le temps de réfléchir à ce qu'il faisait sans être finalement trop contraint par un service exclusif. Donc c'est assez original aussi comme démarche pour l'époque. Et voilà, ce sera une sorte de compagnonnage, pourrait-on dire, privilégié entre Carême et Talleyrand, qui va donc durer plus de 10 ans, avec une relation de confiance, mais de fait, hein, Carême ne sera pas le pâtissier ou le cuisinier exclusif de Talleyrand. Alors, on sait aussi, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, que Talleyrand l'avait mis au défi de pouvoir lui composer des menus différents chaque jour. C'est-à-dire qu'il lui a commandé 365 menus. Alors, non pas forcément pour les exécuter, bien sûr, mais au moins pour le maître à laisser savoir s'il en avait la compétence. Et de fait, Carême va se plier à l'exercice. Et c'est aussi avec ce test réussi qu'il va finalement de plus en plus être dans l'entourage immédiat de Talleyrand.
D'accord. Alors, il y a un grand événement qui va survenir, c'est le Congrès de Vienne. On a beaucoup écrit sur le rôle de Carême au moment du Congrès de Vienne. Vous remettez un peu les choses en place dans le livre. Est-ce que vous pouvez reprendre cela?
Alors oui, c'est un mythe. Alors il est vrai qu'au Congrès de Vienne, Talleyrand va partir avec des cuisiniers et avec le souci, mais il ne part pas seulement avec des cuisiniers, hein, il a tout un ensemble de personnes autour de lui, puisqu'il s'agit d'essayer de séduire le plus possible pour sauver les meubles, je dirais, c'est-à-dire pour sauver ce qui peut être sauvé dans les négociations au sujet des frontières de la France. Et il faut se rappeler aussi que finalement le Congrès de Vienne, il dure un certain temps, et il enjambe, pourrait-on dire, 1814-1815 avec l'épisode des 100 jours qui change quand même considérablement la donne du point de vue de la position française. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Talleyrand va accorder beaucoup d'importance à la gastronomie, à la musique, avec tout un ensemble d'outils de séduction, mais que Carême n'est pas du voyage. Donc, je suis désolée d'insister sur ce point. C'est un mythe. Alors, on prête corrige, bien sûr. Donc, dans l'inconscient collectif au 19e siècle, Carême avait dû être au congrès de Vienne, mais il n'en est rien. Il ira à Vienne, mais bien plus tard. Il y va en 1821, au service de l'ambassadeur britannique en poste à Vienne. Et c'est important quand même pour l'histoire de la cuisine et de ce métier en général. C'est à Vienne qu'il invente la toque. Donc, c'est à Carême qu'on doit la toque. Et il lance cette mode de la toque à Vienne en 1821. Donc, il a réussi son passage à Vienne, pourrait-on dire, mais pas au moment du congrès.
Et alors, justement, on lit qu'il est le roi des chefs et, en jouant sur les mots, le chef des rois. Alors, vous évoquez son passage à Vienne, mais qui a-t-il réellement servi tout au long de sa carrière parmi les plus grands en Europe? A-t-il servi, par exemple, le tsar Alexandre, sur lequel vous nous aviez, il y a quelques années, donné une remarquable biographie?
Oui, il a servi Alexandre Ier parce que, précisément, il sert Alexandre Premier rue Saint-Florentin, donc à la table de Talleyrand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en 1814, quand précisément Talleyrand reçoit le tsar à sa table rue Saint-Florentin, le tsar va rester 2 semaines chez Talleyrand. Et puis ensuite, il va partir au palais de l'Élysée, où il va rester 4 semaines. Et il demande à Talleyrand que Carême le suive. C'est-à-dire que vraiment, il s'est attaché à la cuisine exquise de Carême. Et donc, Carême va le suivre. Donc, pendant 6 semaines, les 6 semaines durant lesquelles il est à Paris, eh bien, Carême va composer des menus pour la table impériale et également pour la table de ses généraux. Avec des concessions, c'est très intéressant, des concessions au goût du tsar. En particulier, on sait que le tsar aimait beaucoup les huîtres, donc il y aura systématiquement une assiette d'huîtres. Le tsar aimait les potages, et donc la Carême joue habilement de son rôle finalement au service de la diplomatie, puisqu'il va à la fois servir des soupes russes et puis des soupes françaises, enfin ce qu'on appelle des potages. Il emploie le terme soupe russe, mais potage français, pour aussi montrer une différence. Mais il a le souci finalement de lui servir à la fois des plats en petit clin d'œil à sa russité et puis en même temps des plats typiquement français pour le séduire. Et puis surtout, il va le servir en 1815 lorsque le tsar revient et c'est Carême qui va orchestrer les grands dîners, les grands soupers qui sont commandés et offerts en fait par le tsar à ses officiers. C'est ainsi que Carême aura la responsabilité de 3 grands dîners de 300 couverts à Vertus en Champagne. Il faut se rendre compte de ce que ça représente en 1815 de pouvoir assurer ainsi en 3 jours 3 repas servis à 300 personnes dans une région qui a été dévastée en 1814 et 1815, puisque ce sont des zones qui n'ont pas été épargnées par la guerre et l'occupation. Mais il va y parvenir, et à tel point, à telle enseigne, que Alexandre l'invitera par la suite à la cour de Saint-Pétersbourg. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le 1814-1815 vont constituer un véritable tournant dans la carrière de Carême. Parce que, en servant Talleyrand, en étant au service du tsar en 1815, il est au cœur de l'Europe, puisque tous les Européens, les souverains, leurs grands ambassadeurs sont à Paris, sont en France à ce moment-là. Et la conséquence, c'est que sa notoriété va se trouver décuplée, bien plus que s'il avait servi tel ou tel souverain en se déplaçant. Là, il y a une sorte de conjonction en fait favorable, c'est ce qui va expliquer que sa notoriété s'installant, il va avoir des offres, il va recevoir des offres, en particulier une offre qu'il va accepter, qui est l'offre du régent d'Angleterre, le futur George IV. Et puis il y aura d'autres offres, celle d'Alexandre Ier. Et ensuite, évidemment, il servira d'autres grands qui ne sont pas des souverains, mais qui sont des hommes puissants, l'homme d'affaires James de Rothschild, chez lequel il achève sa carrière. Mais c'est ce qui est important à souligner, je crois, c'est que à la fois il y a son génie propre, son talent, et puis le fait qu'il s'est trouvé en phase à des moments clés où l'Europe regarde la France regarde Paris, pourrait-on dire, et Paris regarde la table de Talleyrand.
Est-ce qu'il a un rôle dans d'éventuels transferts culinaires d'un pays vers l'autre? Et puis, on sait qu'au XVIIIe siècle, dans l'époque qui m'est chère, le service dominant était le service à la française, c'est-à-dire qu'on plaçait sur la table la totalité des plats et les invités se servaient un petit peu comme ils voulaient et les verres étaient placés à l'arrière. Est-ce qu'il a un rôle dans le passage vers le service à la russe au XVIIIe siècle, au XIXe siècle?
Alors, Carême préférait le service à la française parce que le service à la française est beaucoup plus beau. On a justement sur ces grandes tables d'apparat tous les mets qui sont disposés avec des compositions savantes, des jeux de symétrie. On démultiplie les plats. Donc tout cela est extrêmement beau et on joue à la fois des couleurs des mets, de leur disposition, qu'on associe à une vaisselle prodigieuse, des couverts éclatants, des verres, hein, vous mentionnez, de cristal. Tout cela est extrêmement beau visuellement. Et donc ça s'inscrit vraiment dans son attachement à l'idée que voilà, la cuisine marche de pair avec la beauté et l'esthétique. Mais évidemment, ce service, eh bien, il a des contraintes, c'est-à-dire en particulier, la première contrainte est que finalement, pour les convives, il n'est pas si pratique que ça, ni si agréable, parce que si on est très loin d'un mets, on ne pourra pas y toucher, on ne pourra pas le goûter, parce qu'il n'est pas convenable de se déplacer. Donc, on est un peu, on voit beaucoup de choses, mais finalement, on ne goûte pas tant que ça. Et puis, par ailleurs, on mange souvent froid, qui est évidemment la limite de ce service, puisqu'on dispose tout pour que ce soit visuellement très beau, mais en fait, souvent, il se passe quelques minutes et on mange froid. Donc, c'est la raison pour laquelle, progressivement, le service à la russe, qui est un service à l'assiette, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, va s'installer. Alors, le service, en fait, à la russe, il commence à être popularisé par le prince Kourakine, qui était l'ambassadeur d'Alexandre Ier à Paris, et en particulier au moment de l'alliance de Tilsit. Hein, c'est là que Kourakine reçoit beaucoup et commence à populariser ce service. Mais il est vrai que cela prendra du temps et que Carême sera longtemps rétif au service à la russe parce que voilà, il reste passionné d'esthétique. Bon, ce qui n'empêche pas, à partir des années 25-30, d'écrire finalement, de concéder que ce service à la russe, il est quand même bien pratique, en particulier dans des familles dites bourgeoises, c'est-à-dire que c'est la préfiguration du dîner bourgeois, entre guillemets, où on mange à l'assiette, mais on mange sous, et peut-être au détriment d'une esthétique monumentale, mais pour le bénéfice du goût et de ce qu'on a dans son assiette. Donc, je dirais que c'est un de ces combats d'arrière-garde, en fait, hein, puisqu'il s'y est vraiment plié, mais un petit peu malgré lui. Alors, pour ce qui est des transferts, on lui doit des choses intéressantes. Carême, c'est un patriote culinaire. Il a professé que la cuisine française, la gastronomie, était la meilleure au monde. Et il en a vraiment fait un cheval de bataille tant il en était convaincu. Ce qui ne l'a pas empêché, c'est tout à son honneur, dans ses voyages, puisqu'il va servir, il va en Italie, en Angleterre, en Russie, d'observer et finalement d'intégrer des éléments des cultures des autres dans sa propre pratique, en rendant hommage au savoir-faire de tel ou tel, de tel ou tel peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est assez neuf. Et on lui doit vraiment l'introduction, par exemple, des pâtes italiennes. Hein. Il est un des premiers à lancer la mode des pâtes, macaroni, lasagne, tagliatelle, dans la cuisine française. Donc ça, c'est quelque chose qui est neuf. Et il est ouvert. On a pu faire des statistiques hein, qui montrent que il est, de tous les chefs, les cuisiniers du 19e siècle, jusqu'à Escoffier compris, hein, donc en mordant sur le 20e siècle, celui qui est le plus ouvert aux influences internationales étrangères. Et par exemple, dans ses ouvrages, il va donner la recette d'une soupe très connue en Russie qui est la soupe Louka ou Kha, une soupe de poisson, le barche, ce qu'il appelle le barche polonais. Donc, beaucoup finalement, la timbale de macaroni, qui est une création napolitaine du XVIIIe siècle, dont il s'inspire. Donc, il y a ces influences et c'est aussi une forme d'exotisme. Et aussi pour lui, de montrer en particulier dans le chapitre des potages, qui est vraiment un point sur lequel il met l'accent, que finalement, la soupe ou les potages relèvent d'une universalité. Et il y a chez lui à la fois un côté très patriote et en même temps la conviction que la cuisine, c'est quelque chose finalement qui est commun à l'ensemble des civilisations, des peuples, et qu'on a ça en partage, et en particulier la soupe, le potage qu'il observe de façon finalement systématique. Et ça le rend extrêmement, je dirais, sympathique, parce que par ce biais-là aussi, il est une sorte d'anthropologue de la cuisine avant l'heure, et il met l'accent sur l'importance de la cuisine qui se partage, et en montrant en même temps, voilà, qu'elle a quelque chose d'universel. Ce qui est très neuf pour 1833.
Alors, on a commencé à s'intéresser à ce qu'il met dans les assiettes. En lisant le livre, j'ai remarqué qu'il utilise beaucoup les crèmes, les sauces. Il y a un certain nombre de plats qui sont agrémentés de crèmes. Lesquels, quels sont les plus célèbres qu'il a laissés, vous donnez d'ailleurs un certain nombre de menus à la fin du livre.
Alors, dans les recettes, ce qu'il faut mentionner, c'est que, alors, il y a des recettes qu'il a totalement inventées, d'autres qu'il a, selon l'expression qu'il emploie, secouées, c'est-à-dire modifiées, allégées la plupart du temps, et d'autres qu'il a transcrites, qui venaient d'une tradition orale et qu'il a transcrites. Donc, il y a trois types de recettes. Alors, parmi, en fait, celles auxquelles il tient le plus, il y a tout son travail sur les sauces, puisqu'il a codifié les sauces, en montrant que, finalement, on avait quatre grandes sauces à partir desquelles on pouvait démultiplier, et il aboutit à 150 sauces à peu près. Alors, j'en ai donné quelques-unes dans l'ouvrage. L'idée étant à chaque fois la sauce ne doit pas écraser le plat. C'est quelque chose qui est très important pour Carême. Jusqu'à lui, je dirais, on a tendance à accumuler les saveurs. Lui va travailler sur l'harmonie des saveurs. Il faut que ça aille de pair. Et dans les sauces, eh bien, on aura des réductions, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des sauces à base de vin blanc, par exemple, de champagne, évidemment, puisque quand il est chez les grands, le régent, il travaille beaucoup le champagne, mais il dit aussi qu'on peut obtenir des résultats tout à fait satisfaisants avec des vins blancs moins coûteux. Mais les sauces, donc, sont travaillées comme des réductions pour arriver vraiment au goût le plus essentiel du produit. Alors, à base de roux, hein, il travaille beaucoup le beurre pour obtenir ces fameux roux, et ensuite donc des sauces à base de fumée de poisson, fumée de veau ou sauce au vin. Mais ce qui est à noter, c'est que la sauce, encore une fois, ne doit pas noyer le produit, hein. Elle est quelque chose qui accentue, qui met en valeur le produit, que ce soit le poisson ou la viande, mais en aucun cas elle ne doit écraser le produit. Alors, il a une sauce, j'en ai mis plusieurs, hein, mais une fameuse sauce au champagne qui, justement, se sert avec du poisson, mais à côté du poisson, pas légèrement dessus. Mais il ne s'agit pas, encore une fois, de faire disparaître, comme on le faisait avant lui, certaines sauces qui, finalement, aboutissent à dénaturer complètement l'ingrédient principal.
Alors, il a une formation de pâtissier, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Quels sont ses desserts un peu emblématiques? Qu'est-ce qui caractérise la pâtisserie de Carême?
Alors, il faut se rappeler que pâtisserie ne veut pas dire forcément sucré à l'époque, hein. Un pâtissier, c'est celui qui fait les pâtes. Donc, on a aussi des tourtes salées, par exemple, qu'il met au point. Mais il est vrai qu'il aime le sucre, hein. Il est vrai que... pourquoi? Parce que c'est le sucre qui va lui permettre d'aboutir à ces fameux croques en bouche, hein. C'est lui qui invente le concept de croque en bouche, c'est-à-dire ces énormes pyramides, pièces montées, qu'il va transformer en objets architecturaux, car c'est vraiment sa passion, ça a été également l'architecture. Alors pourquoi la pâtisserie sucrée? Bah parce que beaucoup de le sucre filé, les gaufres permettent de servir de socle. Le sucre filé permet de faire tenir les choux, par exemple. La meringue aussi permet donc de jouer avec des formes extravagantes sans que ça écrase trop en poids la dite pièce montée. Donc, il a, encore une fois, beaucoup innové pour ce qui est de l'association des goûts pour travailler ces objets extraordinaires, donc temple grec, pagode chinoise, pyramides égyptiennes, etc., qui vraiment vont être sa marque de fabrique. Pour ce qui est des desserts emblématiques, il est l'inventeur de la charlotte, Donc ça, c'est vraiment l'inventeur également des petits fours. Et il a modifié, alors on n'est pas sûr qu'il en était totalement l'inventeur, mais en tout cas, il a retravaillé la pâte à choux pour justement aboutir à ces fameux croques en bouche, c'est-à-dire ces pièces montées qui donnent lieu à des objets qui sont extrêmement beaux et dont on a reproduit quelques exemplaires dans l'ouvrage.
Oui, absolument. On voit temple d'amour, ruine antique, donjon médiéval. Alors moi, ça me fait penser au néo-gothique, ça me fait penser aux fabriques que l'on trouve à l'époque dans les jardins néoclassiques. Il a une formation d'architecte, parce qu'on dirait que ça le passionne,
l'architecture. Oui, c'est un architecte raté dans l'âme, au sens où il aurait voulu être architecte. Sa passion véritable, c'est l'architecture. Mais il dit dans ses souvenirs, je n'avais pas assez d'argent, je ne pouvais pas aller vers cette profession. Et donc, il a transféré sa passion de l'architecture en pâtisserie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Alors, comment s'est fait cette révélation, finalement? Il faut se souvenir, donc, Carême a appris à lire et écrire à l'adolescence, et pendant plusieurs années, il n'a pas encore bien maîtrisé la lecture, et encore moins l'écriture. Mais il est très curieux, il est ouvert, il est intéressé par beaucoup de choses. Et durant son adolescence, et quand il est apprenti chez Avis, eh bien, pendant ses heures de repos, il se rend à la bibliothèque nationale, puis ensuite bibliothèque dite impériale, dans laquelle il va découvrir ces fameux traités d'architecture. Et pour un adolescent qui maîtrise mal la lecture, les planches d'architecture vont évidemment être une sorte de révélation, parce que là, il voit, il comprend. C'est à partir de cette observation de ces planches qu'il développe une attention extrême au goût des proportions et à tout ce qui est la manière dont on peut transférer des lois, pourrait-on dire, des lois architecturales en objet de pâtisserie. Et alors parfois il est déçu parce qu'il dit la pâtisserie ne me permettait pas de reproduire aussi bien, puisqu'évidemment voilà, travailler la meringue, la pâte à choux, le sucre filé, c'est pas pareil que travailler avec des vrais matériaux. Donc parfois il est un petit peu déçu, mais quand on regarde les pièces montées, on est quand même très très surpris de l'extravagante inventivité et technicité quand même de Carême, parce que on est bluffé par le résultat, totalement subjugué par la beauté de ses réalisations. Et puis aussi, on peut mentionner son attention aux couleurs. Carême détestait, pour les desserts, il détestait les couleurs criardes. Donc il est très préoccupé par la notion d'harmonie, de bon ton. Il emploie le terme bon ton au sens musical du terme et au sens visuel. C'est-à-dire que pour lui, le peintre, comme le musicien et comme le cuisinier, finalement, doivent être attentifs à l'harmonie. Harmonie des couleurs, douceur des couleurs. D'où le fait qu'en général, il aime travailler les couleurs pastel et les couleurs douces de façon assez, assez emblématique.
Tout à fait, ça le caractérise. Alors, a-t-il laissé un héritage en termes d'ouvrages, de traités, de gastronomie, de cuisine? On sait que beaucoup de grands cuisiniers avant lui ont laissé des traités. Est-ce qu'il a eu des élèves? C'est quelque chose qui est très important pour les chefs. Est-ce qu'il y a des élèves qui lui ont succédé?
Alors, en matière de publication, c'est une question très importante que celle que vous posez là, parce qu'il a très tôt été attentif à la question de la transmission. Et il publiera un énorme livre, qui s'appelle « L'art de la cuisine française au XIXe siècle » en 5 volumes. Alors, il ne les terminera pas. C'est précisément un de ses élèves, un de ses proches collaborateurs qui finira l'ouvrage à sa place, parce que la mort l'emporte avant qu'il a fini son œuvre. Mais c'est un véritable traité très impressionnant, très méthodique. Et j'ai travaillé sur ces ouvrages en comparant ceux de Carême à ceux de ses prédécesseurs et même ceux de ses contemporains. On voit qu'il accorde une importance extrême à la présentation des recettes étape par étape. Il est le premier à vraiment préciser les temps de cuisson, les proportions. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux. Et quand on imagine hein, voilà, qu'il y a plus de 300 recettes de potage dans l'ouvrage, on s'aperçoit du travail énorme que cela a représenté. Et ce qui caractérise aussi les livres de Carême, c'est que non seulement on a des recettes, non seulement il y a cet aspect technique, mais il fait voyager son lecteur. Et il y a beaucoup de petites mentions personnelles sur justement la manière dont on découpe la viande en Russie, en Angleterre, la manière dont on présente les poissonneries à Amsterdam ou ailleurs. Donc il y a aussi beaucoup de petites annotations qui participent de sa volonté de cultiver son lecteur, de l'ouvrir finalement, encore une fois, sur cette idée d'universalité de la cuisine. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter parce qu'il est le seul à faire cela, c'est-à-dire à la fois avoir le souci de transmettre par des livres très rigoureux et puis le souci d'ouvrir son lecteur vers d'autres univers et de lui montrer qu'à partir de la cuisine, on peut aussi aller vers des horizons différents et nouveaux. Et il rencontre son public. Les livres de Carême lui valent beaucoup d'argent. Ce sont des best-sellers pour l'époque qui connaissent des rééditions régulières avec des tirages importants et des traductions. L'œuvre de Carême, c'est là aussi absolument impressionnant. Les livres de Carême, j'ai regardé, j'ai fait des comparaisons, etc., sont traduits, par exemple, pour ce qui est du passage du français à l'anglais, 2 ans seulement après la sortie de l'ouvrage en français, ce qui ferait même aujourd'hui rêver les historiens que nous sommes. Anglais, mais également en russe. Carême sera traduit en russe très, très, très rapidement. Ou parfois, ces livres sont présenté en version abrégée en langue étrangère. Mais tout cela lui vaut une très grande notoriété. Et c'est ce qui expliquera qu'il va vraiment être une référence pour tous les chefs et les cuisiniers du 19e siècle. Alors, l'héritage, oui, il a eu des élèves. Jules Gouffet, par exemple, qui sera un des successeurs de Carême, en ce sens que Gouffet, lui aussi, sera extrêmement attentif à la beauté de la cuisine. Et on doit à Jules Gouffet la publication d'un ouvrage dans lequel on aura les premières planches en couleur. Car Carême, lui, au moment où il publie, publie des planches en noir et blanc. Gouffet sera celui qui va passer, si je puis dire, à la couleur. Mais on retrouvera ce même souci d'une cuisine à la fois ornementale, pourrait-on dire, belle visuellement et extrêmement bonne gustativement. Puis il y a d'autres héritiers plus lointains, comme Escoffier, qui partageront avec Carême le souci de la diététique, car il faut bien avoir aussi présent à l'esprit que Carême, alors en dépit de sa passion pour le sucre, dans le même temps est un adepte en fait d'une gastronomie qu'il définit comme l'anti-gloutonnerie, hein, ou la gloutonnerie, l'anti-gastronomie. À ses yeux, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire l'idée que bien manger, ça ne veut pas dire s'empiffrer, et que bien manger, dit-il, peut vous faire gagner jusqu'à 10 ans de vie. Et ça, c'est aussi très très neuf pour l'époque, hein, puisqu'il réduit le gras. Il réduit les quantités. Il sert moins de plats que ses contemporains. Et Escoffier hein, reprendra cette idée que la cuisine doit être, peut être et doit être au service de la santé. Donc il a eu des héritiers différents. Et puis, il y a la troisième catégorie des héritiers qui sont ce que l'on peut qualifier de chefs voyageurs, cuisiniers voyageurs, c'est-à-dire ceux qui vont, comme lui, servir à l'étranger pour finalement diffuser aussi la connaissance et le rayonnement de la cuisine française. Et là, on a par exemple Alexis Soyer qui a été élève de Carême et qui sera un des plus grands chefs de l'Angleterre victorienne.
D'accord. Alors, il y a la publication à la fin du livre d'un certain nombre de menus, de plats plutôt. J'étais en train de les regarder et il y a des viandes, du poisson. Et on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gibier. Est-ce le hasard ? Est-ce parce que c'est un choix qui a été fait, ou est-ce qu'il n'agrémente pas beaucoup le gibier, il ne le cuisine pas beaucoup? Le gibier était le mets aristocratique par excellence au XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce que ça correspond à une évolution post-révolutionnaire qui fait que on se désintéresse un petit peu du gibier? Est-ce que c'est une tendance personnelle qu'il a
Alors, c'est une question intéressante que là aussi que vous posez, parce que on peut dire que de ce point de vue-là, c'est un peu un homme de transition. Il cuisine moins de gibier que ses prédécesseurs et que de certains de ses contemporains, parce qu'il veut alléger justement la cuisine et que les gros gibiers se cuisent à cuisson lente dans des sauces souvent très lourdes. Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il cuisine du petit gibier, c'est-à-dire par exemple des bécasses, hein, des volatiles, mais pas des gros gibiers, parce que le gros gibier précisément, eh bien, voilà, implique des sauces trop lourdes à ses yeux. Mais il garde le gibier. De ce point de vue-là, sa cuisine est influencé par la cuisine d'Ancien Régime, où on chasse, hein, la cuisine nobiliaire, on a le gibier provenant de la chasse. Donc, évidemment, il est dans cette logique, mais effectivement, plutôt des tout petits oiseaux, hein, que des grosses pièces de gibier, parce qu'il s'agit d'aller vers une cuisine plus sophistiquée et moins lourde. Et puis, il cuisine plus de poissons que ses prédécesseurs et ses contemporains. Ça, c'est vraiment une nouveauté chez Carême. Je me suis livrée à des comparaisons, hein, statistiques, et là, c'est quelque chose qui apparaît très nettement. Il cuisine le poisson, et il est un adepte, il le dit d'ailleurs, hein, le poisson n'est jamais meilleur que cuit au sel, à l'eau de sel, c'est-à-dire finalement avec des cuissons courtes, hein, pour justement bien faire ressortir le produit. Et encore une fois, avec des sauces, mais qui se servent à côté dans l'assiette, hein, mais dans une petite saucière à part, mais pas forcément sur le poisson lui-même. Et puis, autre caractéristique, la place des desserts, qui est plus importante chez lui que chez nombre de ses prédécesseurs ou contemporains. Et là, bon, évidemment, c'est un peu son tropisme de pâtissier. Il aime le sucre, hein. Donc, c'est vrai qu'il propose beaucoup plus de desserts que ses contemporains ne le faisaient. Alors, des desserts qui sont des crèmes, qui peuvent être des entremets, ou de vrais desserts, c'est-à-dire des gâteaux, comme la charlotte, ou des petits gâteaux d'après-repas. Donc, pas mal de les fameux petits fours dont il est l'inventeur, et puis des gâteaux secs qu'il affectionne également.
Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de recettes qui existent toujours, qui sont aussi aujourd'hui très pratiquées? Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez fait des essais? Est-ce que vous avez essayé d'appliquer les recettes, les consignes de Carême?
Oui, bien sûr. Oui, quand même. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas exécuté les 100 recettes. J'ai choisi 100 recettes. Bon, certaines, en particulier au départ, les 4 sauces maîtresses, il est vrai qu'elles sont un peu compliquées à réaliser aujourd'hui et qu'on peut voilà, s'accommoder d'un fond de veau, d'un fond de volaille, sans aller jusqu'au degré de sophistication de ces sauces. Mais en revanche, on peut, à partir de là, confectionner ces fameuses sauces dérivée, pourrait-on dire, sa sauce au champagne, qui peut devenir une autre sauce au vin blanc, se fait extrêmement bien. Les purées, il accorde beaucoup d'importance aux purées de légumes, les potages, tout cela, j'ai testé. Son potage d'asperges, qui est très facile à faire. Il aime les potages de légumes, et là, finalement, il est aussi dans l'air de notre temps, puisque la cuisine aujourd'hui donne de plus en plus d'importance aux légumes. Donc là aussi, il est précurseur. Et puis, les crèmes dessert sont très faciles à faire, et en particulier sa crème au caramel et au thé est intéressante. Alors, pour avoir testé les recettes, plusieurs recettes, je dirais que, et là c'est une question presque technique que je me suis posée après coup, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais il faudra y travailler, les recettes salées se font très je dirais, facilement, au sens où les ingrédients, les proportions sont tout à fait valides. Et pour avoir testé, par exemple, sa recette de pigeon au petit pois, qui est absolument délicieuse, voilà, elle est telle qu'elle. Pour ce qui est des desserts, les desserts sont un peu trop sucrés. La proportion de sucre est un peu grande. Et je me demande si ça ne tient pas au fait que le sucre était peut-être moins sucrant. On en est au début, en fait, de l'utilisation du sucre. On est à un passage du sucre de canne au sucre de betterave. Est-ce qu'on maîtrise aussi bien que maintenant le pouvoir sucrant, si je puis dire, du sucre? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a frappé. Il faut réduire un peu, voire parfois presque d'un tiers ou d'une moitié, la proportion de sucre quand on élabore la recette de ces différentes crèmes. Mais là, on peut goûter ce que lui-même faisait d'ailleurs et un peu ajuster en fonction de notre goût. Donc, c'est le seul point sur lequel je dirais que voilà, notre usage, est-ce que c'est une question de sensibilité ou est-ce que c'est lié au produit lui-même? Là, j'avoue que je n'ai pas de réponse.
Je pense qu'ils aimaient beaucoup de sucre à l'époque. On dit qu'ils ont la bouche sucrée au 18e, et je pense que ça s'est maintenu, oui, absolument. En tout cas, nous avons entre les mains un très très bel objet. Flammarion a très bien fait les choses, très belle qualité de papier, de très belles photographies à l'intérieur, et puis ces recettes à la fin de l'ouvrage qui sont vraiment très bienvenues. Donc, un livre qui va, à n'en pas douter, trouver un vaste public. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Merci.
Et votre prochain ouvrage?
Je ne sais pas encore. J'ai plusieurs pistes, mais rien de précis encore.
D'accord. Merci.